Bonjour à tous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Une attitude qui témoigne ». Nous continuons donc notre série sur l'épître de Tite. Alors la prédication d'aujourd'hui pourrait être un petit peu longue parce que il y a beaucoup de détails dans le texte, mais je vais essayer d'être succinct. Nous avons entamé une série sur Tite il y a plusieurs dimanches de cela, et nous avions vu plusieurs choses. Nous avions vu l'établissement des responsables dans l'Église, qui est un thème que je souhaitais aborder avec vous pour regarder ce que dit la Bible sur la direction d'une Église, ce qu'on attend des anciens, etc. Et nous avions vu aussi la discipline contre ceux qui enseignent n'importe quoi, les mauvais enseignants, ainsi que l'objectif de l'enseignement, à quoi ça sert. Nous en avons parlé la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre 2 de l'épître de Tite. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien leur Bible et qui la cherchent, c'est une petite épître qui est vers la fin de la Bible et qui se trouve avant les épîtres un peu grandes de Jacques et d'Hébreu et après les épîtres de Thessaloniciens et de Timothée, pour la situer. Nous avons parlé des enseignants dans l'Église. C'est bien, mais aujourd'hui, on va parler de vous, les membres de l'Église, car c'est maintenant à cela que Paul va s'adresser en les classant en différentes catégories, les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes gens, et j'ai mis Tite, vous allez comprendre pourquoi, et les esclaves. Et donc, en fait, Paul va s'adresser dans ce début du deuxième chapitre aux différentes catégories qui jalonnent notre Église. Alors, si vous êtes en train de vous demander dans quelle classe est-ce que vous êtes, est-ce que je suis encore jeune, est-ce que je suis déjà âgé? Bon, il faut savoir que dans le contexte de l'époque, on disait que quelqu'un était jeune quand il avait moins de 40 ans. J'ai encore quelques années. Mais si vous êtes au-delà, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Parce que je n'ai pas trouvé où est-ce que commence le curseur que place Paul. Donc, je laisse ça à votre libre appréciation, d'où est-ce que vous vous situez. Et Paul, à chaque catégorie, va adresser des enseignements, des recommandations que nous allons voir ensemble. Mais toutes les recommandations qu'il va adresser à ces différentes catégories de personnes, dans lesquelles vous êtes forcément classés, vous faites forcément partie, toutes convergent vers un objectif commun qui est le témoignage de l'Église dans la société. C'est intéressant parce que ce matin, Donatien a prié en disant que nous sommes des chrétiens dans le monde. Et c'est vrai, et c'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on agit pour être un témoignage? Quelle est notre attitude qui témoigne? Donc sans transition, pour éviter que la prédication soit trop longue, je vous invite à entamer notre première catégorie, les hommes âgés. Ah bah, il aurait pu être galant de commencer par mesdames, mais non, Paul commence par ces messieurs. Et je vous invite à lire les deux premiers versets du chapitre 2 de Tite. Donc c'est toujours Paul qui écrit à Tite, donc c'est à lui qu'il s'adresse. « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. » Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis et d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. » Et on va d'abord s'arrêter là. Après avoir présenté l'enseignement et la conduite des enseignants de mensonges, Paul demande à Tite de ne pas agir comme eux. Les enseignants de mensonges font ceci, cela. Toi, au contraire, dit l'apôtre. Il lui demande, de parler selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. L'enseignement saint, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement qui n'est pas contaminé par le péché. C'est l'enseignement qui produit la vie. C'est l'enseignement qui est conforme à la parole de Dieu. Vous commencez à le comprendre, on est là dans un thème majeur de l'épître, qui est la mise en pratique de la saine doctrine pour des œuvres bonnes. Et on va voir que c'est quelque chose qui va revenir aussi dans le texte suivant qu'on fera la prochaine fois. la mise en pratique de la saine doctrine pour des œuvres bonnes. Alors, ce qui est intéressant, si vous êtes familier des épîtres de Paul, c'est que bien souvent, elles sont bien structurées. C'est-à-dire qu'il y a une première moitié de l'épître qui concerne un enseignement doctrinal, où il va exposer la doctrine, et dans la deuxième partie, il va exposer la pratique liée à cette saine doctrine. Et donc, il y a un lien qui est absolument évident. On ne peut pas faire de bonnes œuvres si on n'a pas une saine doctrine. Alors, quand on parle de bonnes œuvres dans la Bible, comprenons-nous bien. On ne parle pas d'œuvres méritoires, d'œuvres salutaires, en vue d'obtenir le salut. On n'est pas en train de marquer des points pour espérer, si on atteint un certain nombre de points, obtenir la vie éternelle. Non. Ce sont des bonnes œuvres qui sont faites parce que nous avons obtenu le salut. En conséquence de la grâce de Dieu, nous accomplissons des bonnes œuvres. C'est important de le rappeler. C'est ce que nous croyons, hein. Sola gratia. Donc Paul s'adresse ici à une première catégorie de membres d'Église, les hommes d'âge mûr. Et Paul demande à Tite de les considérer, premièrement. Et ça déjà c'est intéressant, parce que ça va à l'encontre de notre société d'aujourd'hui, où les personnes âgées sont plutôt mises sur le côté. Et oui, on les parque dans des EHPAD, dans des maisons, on ne les garde plus avec soi. Elles sont plus utiles à la société parce qu'elles produisent rien, et puis elles deviennent même un coût. Et c'est, je crois, à titre personnel, enfin, les études l'ont montré, quelque chose qui conduit d'ailleurs au raisonnement du suicide assisté. Il y en a, alors on est là, notre société dit oui, ça serait super. Et puis au Canada, on a montré qu'ils le pratiquent depuis un moment. On a montré que des gens le pratiquaient parce qu'ils représentaient un coût pour leur famille. Ah. Ça, on ne l'a pas vu venir, celui-là. Paul demande à Tite de considérer les personnes âgées dans l'Église. Déjà, il y a déjà une différence avec ce que fait notre société. Notre société qui met d'ailleurs en avant le fameux argument « Ah, il faut laisser la place aux jeunes ». Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est âgée et qu'elle peut moins faire qu'elle est mise sur le bas-côté de l'Église. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, elles apportent des choses comme on va le voir. Tite est chargé par l'apôtre de leur dire de faire preuve de modération, d'être sobre. Alors c'est quelque chose qui revient déjà. On l'avait vu quand on avait traité des anciens au chapitre 1, dis-leur d'être modéré, sobre. Et bien là, il est dit la même chose aux hommes âgés. Alors certes, on a en tête évidemment hein, le contexte de l'île de Crète, dont je vous ai déjà parlé, où les Crétois aimaient bien la boisson. Voilà, donc évidemment, être sobre quant à la consommation d'alcool, mais pas seulement, c'est aussi être sobre dans sa conduite en général, être modéré. C'est-à-dire de ne pas se laisser enivrer par la passion, comme par exemple des paroles. Et c'est ce qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Proverbe 10, verset 19, je ne l'ai pas affiché, mais qui dit « Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » Tite doit leur dire d'être respectable et réfléchi, empreint de dignité, équilibré, discret. Alors certes, hein, une personne âgée, on voit la maturité physique, mais là, il est surtout question de maturité intellectuelle, de maturité morale, de maturité spirituelle. Autrement dit, Tite demande aux hommes âgés d'être sages. D'être sages. Quelqu'un qui, par son attitude, tire les autres vers le haut. Celui de qui les jeunes disent « plus tard ». J'espère être comme lui. Tite doit leur dire d'exercer une saine pratique de la foi, c'est-à-dire d'agir dans la confiance en Dieu, dans la considération de sa personne et dans la considération de sa parole, c'est évident. Exercer une saine pratique de l'amour, et oui, aimer son prochain avec patience. aimer son prochain avec pardon, si nécessaire, en le pratiquant de manière désintéressée. Enfin, d'exercer une saine pratique de la persévérance. Au moment où le corps devient plus difficile, où l'on évolue dans un monde qui ne ressemble plus trop à ce que l'on a connu, on sait tous, hein, aujourd'hui, la société, elle avance à vitesse grand V. Il y a 50 ans, ce n'était pas du tout la même société. Pourtant, à regard humain, il y a 50 ans, c'était hier. Cela demande de la persévérance dans la foi, persévérance dans la saine doctrine, malgré notre société de plus en plus libérale. Les vies chrétiennes saines sont le résultat d'une saine doctrine apprise dans le temps, sur la durée, qui a maturé. Après les hommes âgés, Tite passe aux femmes âgées. Et lisons ensemble le verset 3. « Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. » Par l'intermédiaire de Tite, Paul demande aux femmes d'âge mûr d'avoir un comportement qui est digne de Dieu. Ce qui comprend une similitude avec ce que nous venons de voir pour ces messieurs. Hein. D'avoir cet équilibre de vie, de cultiver ces trois choses qui demeurent. Vous les connaissez, les trois choses qui demeurent, c'est quoi ? La foi, l'espérance, ouais, exactement, 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour. Pour que la foi ne devienne pas la superstition, pour que l'amour ne devienne pas la passion, et pour que la patience ne devienne pas de l'indifférence. Paul ajoute qu'elles ne doivent pas être médisantes. En grec, le terme utilisé, c'est diabolos, qu'on ne trouve qu'une seule fois ici. Et ce détail, qui semble anodin, est important, car en fait, la médisance, c'est le propre de l'accusateur, le diable. Il murmure contre les autres dans l'esprit afin de désunir. Ah, t'as vu elle ? Et lui, t'as vu ? La médisance. Afin de disperser, de désunir, de casser pour que ça pète dans l'église. Cette attitude-là, ce n'est pas une attitude qui est digne de Dieu. Au lieu de détruire par quelques médisances, elles doivent plutôt construire par un bon enseignement. Leur expérience et leur maturité dans la foi constituent un atout pour enseigner, on va voir qui, les jeunes femmes. Des années d'études de la Bible et d'expériences pratiques leur permettent de donner des conseils précieux à celles qui sont au début de leur vie. Sans cela, chaque nouvelle génération est condamnée à recommencer l'apprentissage et à répéter les fautes du passé. Et donc, vu qu'on commence à parler des jeunes femmes, voici ce que dit Tite à leur sujet. Lisons ensemble les versets 4 à 5. Qu'elles apprennent, donc les femmes âgées, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Ce qui est étonnant là, c'est que dans l'enseignement aux jeunes dames, ce n'est pas à Tite de le faire, mais c'est plutôt aux femmes âgées. Tite, lui, il va s'occuper des jeunes hommes, comme on va le voir. Pourquoi les femmes âgées ? Probablement pour des questions de légitimité. Eh oui, une femme connaît les problèmes d'une femme. Un homme, reconnaissons-le, messieurs, un peu moins. C'est un fait. Un peu de la même manière qu'une Naomi a enseigné Ruth. Vous connaissez bien l'histoire. Hein ? C'est étonnant de voir des femmes d'âge mûr apprendre aux jeunes femmes des principes de conduite. Aujourd'hui, dans notre société qui est marquée par un féminisme débordant, parfois même agressif, et le rejet d'un fonctionnement sociétal qui n'est pas si vieux de ça, c'est quelque chose qui est presque devenu inenvisageable. Surtout dans les termes de qu'on a lu, on va en parler. Les nouvelles générations veulent une coupure avec la précédente. Et cela crée des incompréhensions marquées, conduisant parfois à rompre le dialogue. Dès qu'on entend « Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je vais t'expliquer comment ça se passait. Oh, blablabla, bla, bla, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça, etc., etc. » Eh oui, ça les intéresse pas, ils ne veulent pas écouter. C'est d'un autre temps, le temps du patriarcat, etc., etc. Ici, l'enseignement apporté par les femmes âgées aux jeunes femmes rencontrerait aisément l'argument du patriarcat, non seulement dépassé, mais surtout néfaste. Un fonctionnement avec lequel on doit rompre pour se libérer. Si je dois reconnaître que des hommes ont pu avoir une mauvaise attitude envers mesdames, parfois s'apparentant à de la domination malsaine, c'est vrai. Se jeter dans un extrême libéral ne sera certainement pas une solution idéale au problème. Car en fait, le fond du problème, ce n'est pas le patriarcat. Le fond du problème, il a un nom. C'est le péché. Et ce n'est pas en allant dans un libéral extrême, de l'autre côté, qu'on règle le problème du péché. En fait, on le déplace, ou plutôt on le fuit. D'ailleurs, il serait injuste d'avoir une lecture masculiniste de la Bible. Dieu nous parle de cette relation homme-femme, et quand on regarde bien, l'homme a des devoirs envers sa femme. Vous connaissez le devoir de l'homme envers la femme ? Je vous aide un peu, Éphésiens 5. L'aimer comme Christ a aimé l'Église. Ah ! C'est chaud, hein ? On est loin de la domination. Elles doivent leur apprendre à aimer leur mari. Alors certes, il y a de l'affection qu'une femme peut porter à son mari, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une question de respect. C'est aussi une question de reconnaissance. C'est aussi une question de dialogue. C'est aussi une question de pardon. Et c'est aussi une question de soutien. Elles doivent aussi leur apprendre à aimer leurs enfants. Là encore, c'est plus que de l'affection. C'est aussi les encourager. C'est aussi les soutenir quand ça va mal. C'est aussi les aider. C'est aussi les éduquer, faire preuve de discipline. Et c'est aussi aplanir les sentiers pour l'accueil de l'Évangile et les conduire à faire le choix, le bon, celui qui donne la vraie vie, la vie en Jésus-Christ. C'est aussi ça, aimer son enfant. C'est de lui transmettre ce qui compte le plus pour nous, l'Évangile, ce qui va le sauver, l'œuvre de Christ pour sa vie. Elles doivent leur apprendre à agir de manière réfléchie et pure. C'est avoir une sage perception de ce qui est convenable pour des chrétiennes. Ne sous-estimons pas l'influence du monde sur les jeunes, qui est très, très fort, très violent, encore plus avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, où par ce fonctionnement, on façonne les jeunes générations. Et si tu ne colles pas au moule, tu n'es plus dans le coup. La pureté morale, elle commence dans le cœur. Et elle a pour conséquence des paroles et des actes. Ce n'est pas seulement de la pureté extérieure. On avait parlé la semaine dernière, quand on a parlé de pureté et qu'on a lu Marc, ce que Jésus en dit. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Leur apprendre à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et être soumise à leur mari. Ah, yeah, on y est. Oui, mais Paul, c'était valable uniquement dans le contexte culturel de l'époque, d'un autre temps. Aujourd'hui, ça a changé. Tout d'abord, Notons que le texte ne dit pas que les hommes ne doivent rien faire à la maison. Eh oui. L'attitude doit être la bonté envers la famille et la bonté aussi envers les invités qui viendraient chez nous. Car c'est là une preuve d'amour que d'accueillir et de vivre dans un lieu propre et rangé. Il en est de même pour celles et ceux qui font le ménage dans l'église. Pour que les gens qui y viennent soient accueillis dans un lieu propre, un lieu accueillant. C'est une manière de les aimer. En fait, par ce qui est dit là, si vous connaissez encore un peu votre Bible, le lien est évident avec ce qui est dit de la femme de valeur, Proverbe 31. Et oui, en fait, les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes à être des femmes de valeur. C'est ça que ça veut dire. Quant à la soumission, l'aspect ici n'est pas négatif, mais il se fait dans le respect et la confiance d'être aimé comme le Seigneur aime son Église. En fait, c'est là le fonctionnement sain d'un binôme de vie. Il n'y a pas deux individualités qui se confrontent sans cesse. Il y a là un fonctionnement qui est sain. Je vais l'expliquer un peu dans le détail. Je regarde juste si je ne le fais pas après pour ne pas me couper. Non. De quoi il est question quand on parle de ça dans la pratique ? Nous, on l'enseigne avec mon épouse quand on fait des préparations au mariage, parce que c'est un sujet qui est évidemment récurrent et qui ne colle pas trop avec notre société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un cas où il y a une décision à prendre pour le couple, pour la famille, le dernier mot reviendra au mari. Évidemment, précédé d'un dialogue avec madame pour comprendre les besoins, pour comprendre la position. Et si on n'a pas réussi à tomber d'accord, c'est le mari qui prendra la décision finale. Mais, pour la femme, c'est acceptable. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que le mari va prendre la meilleure décision pour elle. Parce qu'il l'aime, comme le Seigneur aime son Église. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur, pour son Église ? Il est mort pour elle. On en est arrivé à la conclusion avec Mallory qu'en réalité, le rôle de la femme est finalement plus aisé que celui du mari. Car écoute, je te fais confiance, je sais que tu prendras la bonne décision. Et puis nous, messieurs, il y a le poids de la responsabilité de la décision qu'on doit prendre, dans l'amour, en accord avec la parole de Dieu et en accord avec la volonté du Seigneur. C'est comme ça qu'elle se vit la soumission biblique. On est loin de la domination, tu te tais, c'est moi qui décide. C'est pas ça du tout. N'ayons pas un regard caricatural du texte biblique. Ce n'est pas cela qui dit. Et c'est sain, parce que ça évite de rester tout le temps dans une confrontation. Qui décide ? Bah, finalement, on ne sait pas. C'est un peu chacun pour soi. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a voulu dans le couple ? Je ne le crois pas. Il y a là une notion fondamentale à comprendre. C'est que le couple, il reflète la relation de Christ-Église. Éphésiens 5, 28-33, vous savez, le fameux mystère là, que Paul décrit, je parle là du mystère révélé de l'Église et du Christ. C'est de ça dont il est question. Le couple reflète ce lien. Le mari témoigne de Jésus-Christ, l'épouse témoigne de l'Église. Et d'ailleurs, quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait une alliance avec l'autre, de la même manière qu'on a fait une alliance avec notre Seigneur. On sait même d'ailleurs ce qu'on porte au doigt, hein, une alliance. Pour vous rappeler, c'est le symbole, ça. J'ai fait alliance avec quelqu'un. Je suis uni par une alliance à la personne. De la même manière que l'Église fait alliance avec Jésus-Christ par son sang. C'est d'ailleurs ce que l'on fait quand on prend la Sainte Seine. Rappelez, quand on boit là, ça symbolise quoi ? Le sang du Seigneur par lequel il a créé une nouvelle alliance avec nous. Le couple doit refléter ça. c'est le témoignage que le couple rend au monde. Le couple, par son fonctionnement, par son attitude, l'un envers l'autre, témoigne de ce que vit Christ avec son Église. L'Église se soumet à Christ, comment ? Mais dans la confiance en lui. On fait confiance à notre Seigneur. On sait que pour son Église, il prendra dans tous les cas les bonnes décisions. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est mort pour nous. Est-ce que c'est pour nous laisser tomber derrière ? Non. C'est dans ce cadre-là du témoignage que s'exerce la soumission dans le couple. Et c'est pour ça que je crois que c'est un fonctionnement qui est sain. De la même manière que l'Église est soumise à son Seigneur, c'est un fonctionnement qui est sain. Ça témoigne de l'Évangile. Paul en donne la raison. En mettant en pratique ce que les femmes d'âge mûr enseignent aux jeunes femmes, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. En grec, plus exactement, c'est blasphémé. C'est fort, hein ? En fait, ça donne de la valeur à ce que l'on croit. Il ne faut pas sous-estimer le témoignage en acte d'une personne vivant à contre-courant du monde et suivant des valeurs d'amour, de bonté et de vérité de l'Évangile. Il ne faut pas sous-estimer ça. Cette manière de procéder interroge, touche, car le monde ne juge pas le christianisme sur ses doctrines, souvent qu'il ne connaît pas d'ailleurs, mais sur les effets que ça produit dans notre vie. C'est là-dessus qu'on est jugé. Nouvelle catégorie, les jeunes gens. Lisons ensemble les versets 6 à 8. Donc c'est toujours Paul qui s'adresse à Tite. « Recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. » À eux aussi, Tite doit leur recommander d'agir de manière réfléchie, sobre. En fait, on constate que c'est dans toutes les catégories de l'Église. Hein. Donc en fait, on est tous concernés. Il n'y en a pas un qui peut dire « mais ça, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi ». En général, on parle plutôt chez les jeunes de la fougue, de la jeunesse, de l'empressement à faire les choses. Ici, Tite doit les inviter à la tempérance, à la réflexion, au choix mesuré. Ce qui est marquant, c'est que Paul demande à Tite d'être un modèle d'œuvre bonne pour eux. Et ça, c'est important. Les jeunes s'identifient souvent à quelqu'un. Ça peut être une personnalité, un youtubeur, un mentor, etc. Mais à qui s'identifient-ils pour leur vie spirituelle ? Ça peut être un de leurs parents. J'ai en tête, par exemple, ma mère qui, tous les matins, passe 2 heures dans la lecture et la prière de la parole. Je trouve ça fabuleux. Ça peut être un moniteur, une monitrice d'école du dimanche, ou un moniteur, une monitrice d'un camp chrétien que l'on va faire l'été. Ça peut être un diacre ou une diaconesse. Ça peut être aussi un ancien de l'Église. Tite doit être un modèle pour eux. Et il y a là un parallèle évident avec le rôle des anciens qui est donné en 1 Pierre 5, verset 3, où Pierre dit que les anciens doivent être un modèle pour le troupeau. Il y a là quelque chose avec les qualités qu'on a lues et qu'un ancien doit rechercher, vous savez, être irréprochable, tout ça. Mais est-ce qu'un ancien est quelqu'un à qui on a envie de ressembler ? Question ouverte. En général, on cherche plutôt à ressembler à quelqu'un qui a réussi sa vie. Quelqu'un qui a une bonne situation, qui a une bonne carrière, une situation stable, confortable. Ça, c'est quelqu'un qui fait envie. On a envie d'avoir un parcours un peu similaire, car on en connaît la finalité. Sauf que là, on parle d'être un modèle d'œuvre bonne. Et oui, parce qu'après tout, en fait, c'est quoi réussir sa vie ? Est-ce que c'est ça ? Avoir eu une belle carrière, des bons revenus, des biens immobiliers, je ne sais quoi, ou une belle voiture, j'en sais rien. Est-ce que c'est ça, réussir sa vie ? Est-ce que réussir sa vie, c'est pas plutôt avoir une vraie relation avec Dieu ? Une relation empreinte de joie, une relation de bonheur, une relation de soutien, une relation de confiance, du service pour le royaume de Dieu et de l'amour sincère pour les autres. Est-ce qu'en fait, c'est pas ça, réussir sa vie ? D'avoir un lien si fort avec le Dieu tout-puissant de l'univers ? Est-ce que c'est pas ça, réussir sa vie ? De l'entretenir, de vivre des bons moments avec le Seigneur et de le prier quand c'est difficile. Mais c'est aussi aux anciens de donner envie, de ne pas être austère, rigide, froid, peu accessible. Ça ne donne pas envie, ça. Mais c'est plutôt de manifester la joie de servir le Seigneur, d'être reconnaissant pour sa grâce, de vivre pleinement la vraie liberté que Christ nous a acquise et d'encourager à vivre pour Dieu. Ça, ça fait plus envie, ça. Quand je m'examine personnellement, je me pose parfois cette question. Est-ce que je suis un modèle pour vous ? Est-ce que je suis quelqu'un à qui on a envie de ressembler ? Alors, pas physiquement, hein, ça, on s'en fiche. Mais je parle dans la piété, dans la relation avec Dieu, dans le fait de creuser la parole, etc. Est-ce que je suis un modèle pour les jeunes, non pour ma gloire personnelle, mais pour celle de celui qui m'a sauvé ? Quand j'ai commencé dans le ministère, j'étais dans une église où il n'y avait pas d'anciens, et j'ai eu la tâche d'en nommer. Et l'une des premières choses qu'on m'a dit, pour nommer un ancien, on m'a dit « Demande-toi si la personne à qui tu penses, elle est un modèle pour les autres. » C'est pas simple, hein ? Est-ce que la personne à qui tu réfléchis pour devenir un ancien, est-ce que cette personne, elle est un modèle pour les autres ? Alors, j'étais un peu jeune dans le ministère, donc je comprenais pas trop l'intérêt de cette remarque. Oui, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait une saine doctrine, etc. Mais avec le temps, j'ai compris. Est-ce que cette personne est un modèle pour les autres ? C'est une question que je me pose régulièrement pour savoir où est-ce que j'en suis à ce niveau-là, pour donner envie de rencontrer ce Seigneur qui m'apporte tant. Paul donne des consignes à Tite, que son enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect, que sa prédication soit saine et inattaquable. Il y a un lien évident, comme je l'ai déjà dit, entre l'enseignement et les œuvres de celui qui enseigne. On ne peut pas être dans le « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Non, ça ne peut pas marcher, ça. D'ailleurs, on ne peut pas être un modèle comme ça. Un enseignement fidèle et sain, c'est un enseignement qui est conforme à la saine doctrine, qui est fidèle aux saintes Écritures. Ainsi, il sera respectable et inattaquable. Tiens, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Je vous remets un petit peu en arrière. Chapitre 1, verset 9. Quand on lisait ce qu'il faut pour les anciens, qu'est-ce qui est écrit ? Que l'ancien soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. Il y a là un parallèle évident entre les deux. C'est une répétition, en fait, que l'apôtre donne. Enseigner, avoir une prédication conforme à la saine doctrine, fidèle aux saintes Écritures, qui est inattaquable, ça demande du travail. Ça demande du travail. À l'Église, à la prédication, on voit le travail fini. 30, 35 minutes de prédication, peut-être un petit peu plus ce matin, je m'en excuse. Mais on ne voit pas tout le travail que ça a demandé avant. Ça demande des heures de lecture, de réflexion, de prière, de lire le texte dans plusieurs versions pour comprendre, d'aller voir l'hébreu ou le grec, etc., etc. Ça demande un travail colossal. Pour ne pas dire n'importe quoi, il faut de l'investissement. Pour que l'enseignement soit irréprochable sur le fond et qu'il soit solide dans la défense de notre foi commune. Parce que c'est là ce que dit Pierre dans son épître. Soyez toujours prêts à défendre votre foi. Dernière catégorie, les esclaves. Et on va lire les versets 9 à 10. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Alors, pour éviter que vous soyez concentrés que sur le terme d'esclave et que vous n'écoutiez pas la suite, j'ouvre une petite parenthèse. Sur la question de l'esclavage dans le Nouveau Testament, voici rapidement ce qu'on peut dire. L'apôtre Paul ne prône pas directement l'abolition de ce système. Pourquoi ? Parce que dans l'Empire romain, une grosse proportion de la population était esclave. Par exemple, j'ai lu qu'à Corinthe, il y en avait 400 000. Corinthe, ce n'était pas une ville d'un million d'habitants, hein. Donc, il y avait probablement plus de la moitié de la population qui était des esclaves. Donc, abolir par la Révolution un système comme ça, vous imaginez la catastrophe. Mais il est important de savoir qu'à cette époque, la condition d'esclave est plus favorable que la condition de pauvre libre ou d'esclave affranchi. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'étaient plus esclaves avaient beaucoup de mal à trouver du travail et donc à survivre. Le travail, on le donnait aux esclaves. Et en contrepartie, ils étaient logés et nourris. Je ne vais pas dire blanchis parce que c'était à eux de le faire. Mais ils étaient logés et nourris. Tandis qu'un pauvre affranchi, bah, il n'était ni logé, ni nourri, il était dans la rue. Et puis, il ne trouvait pas de travail parce qu'on ne voulait pas payer un type. On le donnait aux esclaves, le travail. Et ça, il faut le comprendre. C'était beaucoup plus difficile d'être un affranchi que d'être un esclave. Ensuite, dans la lettre suivante, que vous connaissez peut-être, Philémon, l'apôtre invite ce maître, Philémon, à recevoir son esclave Onésime comme un frère et un homme. Et c'est important comme distinction parce que dans la loi romaine, un esclave n'était pas un être humain. C'était un objet. Et donc de le faire, de reconnaître Onésime comme un être humain, pour nous ça paraît anodin, bah oui c'est normal, mais à l'époque c'était disruptif. Presque choquant de dire ça. En Galates 3, 28, vous connaissez ce texte, il n'y a plus de distinction entre esclave et homme libre. Et en 1 Corinthiens 7, 21, Paul recommande aux chrétiens esclaves de saisir les occasions d'obtenir leur affranchissement quand c'est possible. Autrement dit, la Bible ne l'interdit pas de manière ferme, mais elle provoque un changement dans le fonctionnement, dans la douceur. Pas dans la révolution sanglante par la force, non, dans la douceur, par un changement de compréhension des choses. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans les églises à l'époque, vous trouviez des maîtres qui venaient à l'église avec leurs esclaves. Et qu'est-ce qui était prêché ? Vous êtes égaux. Vous êtes égaux. Et ça, c'était un changement dans la douceur, dans la compréhension de l'humanité que le Seigneur nous a donnée. Je ferme la parenthèse sur l'esclavage. Maintenant, on peut se concentrer sur ce qui est dit. De nouveau, à cette catégorie de chrétiens, Tite doit leur recommander une attitude qui tranche. La soumission à leur maître en toutes choses. Ce qui n'était pas facile, hein. Il y avait beaucoup d'esclaves qui n'écoutaient pas beaucoup. La soumission à leur maître en toutes choses. C'est plus que simplement obéir aux ordres. C'est de marquer du respect envers l'autorité supérieure. C'est l'état intérieur qui se montre par l'obéissance. Alors certes, nous ne vivons plus l'esclavage comme du temps de Tite. Pour autant, nous avons des employeurs, nous avons des patrons, des chefs d'équipe, etc. Leur être soumis n'est pas toujours facile, surtout dans notre culture française où l'on préfère, reconnaissons-le, râler et se plaindre du chef. Pourtant, Tite doit recommander une attitude toute autre. Éviter de contredire, se garder de toute fraude. Il est était fréquent qu'à l'époque, les esclaves y volent. Se garder de toute fraude. Au contraire, se montrer digne d'une entière confiance. Il ne s'agit pas d'être des bénis oui-oui dans le sens où il y a une limite à l'obéissance et à la soumission. C'est la soumission à Dieu, vous le savez. Soumission à Dieu qui est prioritaire sous la soumission aux hommes. Mais il est question par cette attitude de soumission à l'autorité humaine du témoignage de l'Évangile. Donner satisfaction, être agréable. C'est un symbole de fidélité qui manifeste la confiance que l'on peut accorder à cette personne. Lui, là, c'est vraiment mon salarié, mon collaborateur sur qui je peux compter. Il fait le job, il est fidèle, il me donne satisfaction, etc., etc. Alors peut-être serions-nous tentés de considérer que nous ne sommes pas concernés. Et oui, on peut. Par exemple, si je suis mon propre patron, j'ai personne au-dessus de moi, donc ce texte-là, bon, il ne me concerne pas beaucoup. Mais j'aimerais vous rappeler un truc. Quand on a commencé l'épître de Tite, Paul, comme dans toutes ses épîtres, se présente. Et comment il se présente? Vous vous souvenez? Esclave de Jésus-Christ. Paul, esclave du Seigneur. La soumission envers nos supérieurs est un témoignage de soumission envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui dont nous sommes tous les esclaves, esclaves qu'il a rachetés à un très grand prix, le prix de son sang. La conscience de ça, d'être les esclaves du Seigneur. Souvent, on mène notre vie hein, comme si le Seigneur, oui, c'est mon maître, mais bon, je ne suis pas vraiment son esclave, quoi. C'est fort comme terme, doulos en grec. Esclave du Seigneur, c'est mon maître. Tout ce qu'il me demande, je le fais, je lui donne satisfaction, je me soumets à lui en toutes choses. C'est ça être un chrétien. C'est ça être un chrétien, un esclave du Seigneur. On a changé de maître, hein. Quand on s'est fait baptiser ou quand on a donné notre vie au Seigneur, c'est ce qu'on a dit, hein. Maintenant, je n'ai plus pour maître le péché. Je n'ai plus pour maître le monde, le diable. J'ai pour maître Jésus-Christ. C'est lui mon maître. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je suis son esclave, son serviteur. En conclusion, après avoir ciblé les surveillants de l'Église, Paul s'adresse aux différentes catégories de membres. Les hommes âgés, les femmes d'âge mûr, les jeunes femmes, les jeunes gens et les esclaves. Il est question des sujets d'enseignement à s'apporter mutuellement pour grandir dans la sanctification et grandir aussi dans nos relations mutuelles. Les catégories de personnes sont différentes, c'est vrai. Mais les cadres ici qui sont ciblés sont les mêmes que pour les anciens. Il est question de l'évolution du témoignage dans le cadre de notre famille, on l'a vu, hein. Question du cadre de l'Église, nos relations, frères et sœurs, et relations dans le monde, le cadre du monde, avec les autres, comment on témoigne par notre attitude de ce que l'Évangile a transformé nos vies. Comment on témoigne de ça? Par notre attitude. Ce qui marque les gens souvent dans le témoignage, ce n'est pas forcément ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur montre, comment on est, comment on vit les choses. Non, moi je ne fais pas ça parce que je suis chrétien et que j'ai des valeurs. Ça, ça parle. Ça, ça parle. Tout concorde vers un seul et même but, un témoignage juste, un témoignage fidèle, un témoignage qualitatif de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Vous savez, hein, ce que disait Jean-Baptiste pour le baptême, « changer radicalement ». C'est ça en fait. On témoigne du changement radical que l'on a subi en voulant suivre, en choisissant de suivre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Paul a le souci du témoignage de l'Église dans la société. Le comportement de mauvais enseignants, qu'on a lu la dernière fois, l'avait profondément abîmé. Mais celui des membres de l'Église doit être irréprochable. Si les consignes données ne sont pas toujours spécifiquement chrétiennes, c'est vrai, Elles répondent à ce principe énoncé au verset 10, le dernier verset qu'on a lu. « Rendre attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. » La clé, elle est là. Tout concorde vers ce but-là, ce but commun, qui pourrait correspondre d'ailleurs à une vision d'Église. Hein. Paul est en train de dire à Tite, la vision d'Église pour tout le monde, c'est ça. Rendre attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Soyons alors de ceux qui montrent toujours plus dans leur vie quel grand Dieu Sauveur ils servent. Nous ferons alors l'expérience que nos paroles auront un poids et un impact nouveau sur les incrédules. C'est ainsi que nous voyons la gloire de l'Évangile. Par lui, Dieu transforme notre vie pour nous conduire, non à la manière du monde, mais à la manière qui plaît à notre nouveau maître, le Christ. Amen.